Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs de Principe Actrice, de Principe Actif. Donc aujourd'hui, pour une fois, c'est pas Didier qui ouvre l'émission. Didier a un petit souci personnel, il va nous rejoindre au cours de l'émission. Et donc, on se dit qu'on allait présenter l'émission avec l'aide de Damien, qui est quand même à la technique et qui nous aide. On va présenter l'émission « Entre filles ». Et pour présenter l'émission ce soir avec moi, donc il y a Marion.
Bonsoir.
Donc Marion, c'est sa première émission. Donc ouvrez grand vos oreilles avec bienveillance. J'ai passé le week-end à lui dire no stress, tout va bien se passer. Et tout va bien se passer. Marion, regarde, il y a Damien qui est là. Et tout va très très bien aller. Donc pour cette émission, nous avons choisi plusieurs sujets. Je vais d'abord vous parler du consentement mutuel. C'est un sujet donc que je vais vous présenter. Et puis ensuite, on prendra un petit temps de parole avec Marion, qui nous racontera un peu sa première expérience sur le stand d'Amnesty International ce week-end au festival Ça sonne à la porte. Voilà, elle était présente sur le festival et elle va nous raconter son expérience.
Avec plaisir.
Voilà. Alors, je vais commencer d'abord par le sujet que j'avais choisi. Donc, tu veux ou tu veux pas ? Consentir est souvent simple. Dans de nombreux domaines, le consentement s'exprime par la signature d'un contrat entre deux parties saines d'esprit. C'est le consentement éclairé. Je consens à donner un rein, à vendre ma maison. Basta ! Quand il s'agit de consentir à une relation sexuelle, ouille, la migraine. Alors, qu'est-ce que c'est ? On consent à quoi ? On l'exprime comment ? Revisiter le consentement sexuel, c'est accepter de bousculer la morale, la politique, le droit, la sociologie, la philosophie, l'histoire. Enfin bref, notre vieille société poussiéreuse est mal préparée à ce ravalement de façade. L'adage qui ne dit mot consent n'a jamais sonné si faux que ces dernières années. Laissant la place au célèbre « quand c'est oui, quand c'est non », comment et pourquoi le consentement sexuel est-il devenu le graal d'une bonne relation sexuelle ? Le consentement pose beaucoup de questions, sans répondre encore à toutes. Alors j'ai choisi de vous présenter un article de Catherine Le Majeresse, docteur en droit, présidente de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail de 1998 à 2008. Et donc, Amnesty International lui a posé 3 questions. Vous militez en faveur de l'introduction du consentement positif dans le code pénal français, comme au Canada, en Espagne, en Suède, en Écosse. Quelle serait la définition idéale ? Alors, pour Catherine Le Majeresse, la définition canadienne a ouvert la voie à une nouvelle approche du consentement sexuel. Selon le droit pénal canadien, celui ou celle qui initie le rapport sexuel doit prendre des mesures raisonnables pour s'assurer de l'accord volontaire de l'autre. Exit donc ce cliché où l'on devrait signer un contrat en 3 exemplaires. Il faut demander, faire attention, prendre soin, se soucier de la réciprocité du désir de l'autre. Et non plus se fier à un silence ou à une absence de réaction. Et dans l'hypothèse où ce consentement serait allégué par la personne mise en cause, le code criminel canadien tient compte des circonstances dans lesquelles il aurait été donné afin d'interroger sa validité au regard d'un éventuel rapport de hiérarchie, de vulnérabilité. Cette approche a d'ailleurs inspiré les rédacteurs et rédactrices de la Convention d'Istanbul qui l'ont intégrée à l'article 36.2 selon lequel Le consentement doit être donné volontairement comme le résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnementales. Qu'est-ce que la Convention d'Istanbul ? Donc, cette convention que l'on doit au Conseil de l'Europe est un texte qui pose ce qu'un État devrait faire pour traiter correctement les violences masculines à l'encontre des femmes et les violences domestiques. La Convention s'organise autour de quatre piliers. La prévention, la protection, la poursuite, les politiques publiques intégrées. Donc c'est un texte exhaustif, un mode d'emploi pour une politique publique sérieuse. Elle existe depuis 2011 et la France l'a ratifiée en 2014. Mais elle reste, hélas, trop peu connue, y compris par les juristes. Et donc quels sont les avantages de l'inclusion du consentement positif dans le code pénal ? La loi a une fonction pédagogique. Elle fixe des repères. Par exemple, la loi du 21 avril 2021 pour les mineurs pose désormais l'interdiction faite aux adultes d'avoir des contacts sexuels avec des jeunes de moins de 15 ans. Ça, c'est clair, c'est posé. En France, il existe implicitement une présomption de consentement à l'activité sexuelle. Par défaut, chacun serait consentant. Il s'agit de changer de paradigme et de poser que, par défaut, il n'y a pas de consentement et qu'il faut donc s'assurer du consentement de l'autre. On ne pourra plus faire comme si elle ou il avait dit oui. On ne pourra plus imposer un rapport sexuel pendant qu'il ou elle se fait, car qui ne dit mot ne consentirait plus. Alors, rappelons que 70% des victimes sont considérées lors du viol, donc dans l'incapacité de réagir. Si l'on reprend la définition canadienne, ce que l'Espagne vient de faire, cela signifierait que toutes les victimes qui se sont tues lors de l'agression, celles qui ont dit non, celles qui ont dit oui, par peur de représailles, pourraient dénoncer les violences et être reconnues. Cela changerait l'éducation des garçons et des filles. Les filles doivent apprendre à assumer leurs désirs, à en prendre soin, à l'exprimer. Quant aux garçons, ils doivent se débarrasser des stéréotypes beaucoup trop répandue, notamment en raison de l'influence de la pornographie, celle-ci présupposant que les femmes aimeraient être bousculées, violentées. En Suède, depuis l'entrée du consentement positif dans le code pénal, les condamnations pour viol ont augmenté de 75% et le nombre de plaintes est en hausse, les victimes faisant davantage confiance à la justice. Donc ça, c'était l'article de la juriste pénaliste. Et il y a une sociologue qui a aussi parlé des nouvelles règles du jeu par rapport au consentement. Donc, elle a écrit un livre, je vais pas tout vous lire, mais il y avait un rapport aussi avec, effectivement, avec le phénomène MeToo. Et donc, cette sociologue, c'est Irène Théry, directrice d'études à l'ESSES, qui a publié, moi aussi, MeToo, la nouvelle civilité sexuelle, aux éditions Le Seuil. Donc, dans son livre, elle pose la question du consentement à la sexualité et elle montre que cette question ne date pas d'aujourd'hui. Depuis l'Antiquité, le consentement est au centre de la civilité sexuelle occidentale, autrement dit, de la façon dont nous distinguons le permis de l'interdit sexuel. C'est par le consentement au mariage que la société séparait la sexualité autorisée, valorisée, celle de la femme honnête, de la sexualité interdite, taboue, celle de la femme perdue. De plus, l'épouse qui devait obéissance à son mari et former avec lui une seule chair, dans la culture chrétienne, était statutairement consentante à ses désirs sexuels. Ce n'est qu'en 1990 que le viol conjugal a été reconnu en droit. Aujourd'hui, qui penserait que pour qu'une relation sexuelle soit acceptable par la société, les partenaires doivent être mariés ? Voilà. C'est désormais le consentement à la relation sexuelle elle-même qui est devenu le critère séparant la sexualité valorisée de la sexualité condamnée. Et le mouvement MeToo s'inscrit dans ce contexte. Il révèle que nous sommes encore très loin d'une nouvelle civilité sexuelle, conforme à nos valeurs contemporaines de liberté et d'égalité des sexes dans le désir, la séduction, le consentement à l'échange sexuel en général. Les jeunes générations récuse la dissymétrie entre une sexualité masculine de conquête et une sexualité féminine de citadelle. Pouvez-vous préciser ? Alors, il faut revenir en arrière au temps de la hiérarchie comme principe organisateur des rapports masculins-féminins. On a considéré pendant des siècles qu'il devait y avoir des règles différentes pour les hommes et pour les femmes. Et longtemps, y compris depuis la libération sexuelle des années 1970, on a considéré que la morale sexuelle s'appuyait sur la nature, comme l'affirmait Rousseau, la dissymétrie physique obligeant en quelque sorte à la dissymétrie morale. Il faut qu'il puisse, il s'agit qu'elle ne s'oppose point. La sexualité de l'homme, avec ses érections, est valorisée socialement comme une sexualité de conquête, de guerrier, qui part à l'assaut des femmes et prouve ainsi sa virilité. Et la sexualité de la femme est un trésor caché, une citadelle. Elle se doit de la conserver comme un bien rare et ne se donner qu'à celui qui l'épousera. C'était la règle du jeu sexuel, définie au cours des siècles par la société et la religion et admise comme une fatalité. Les hommes devaient s'initier à la sexualité hors mariage, mais les femmes devaient y arriver vierges, en robe blanche. De là le principe de division des femmes en deux. Les dignes épouses et mères de famille d'un côté, et les prostituées, les filles perdues et les filles mères de l'autre. Et l'idée que c'est aux femmes de se protéger. De là, une surresponsabilisation des femmes en cas de relation hors mariage et même de viol, c'est elles qui seront salies et montrées du doigt. Cette double morale sexuelle a commencé de voler en éclats et les nouvelles générations féministes vont plus loin que nous ne l'avions fait. L'idée d'une sous-responsabilisation naturelle des hommes ne peut plus tenir. De ce passé, il reste l'idée que c'est aux femmes de se protéger de la violence. De cette dissymétrie que les jeunes générations récusent, c'est la nouvelle civilité sexuelle qui reste à écrire. Aujourd'hui, quelle que soit la différence des corps, la morale est la même. Il faut que l'un et l'autre aient un désir libre de la relation. Ce n'est pas l'un qui veut et l'autre qui accepte. Il faut un consentement libre des deux côtés. Ce n'est pas lui qui la drague ou l'importune et elle qui doit se défendre. Ce sont les deux qui doivent engager une conversation érotique conçue comme un art du consentement. Le mouvement MeToo peut-il écrire cette nouvelle civilité ? Donc, il y a deux versants à MeToo. Le premier est le plus visible. Ce mouvement mondial de témoignages individuels a fait sortir de l'ombre un continent de violences et de harcèlement sexuel dont on ne parlait pas ou que l'on ne voulait pas voir. La solidarité entre les femmes s'est substituée à leur rivalité traditionnelle. La parole s'est libérée, la honte a changé de camp. Mais l'autre versant de MeToo pose la question, non des crimes et des délits, mais des normes les plus ordinaires de la civilité sexuelle. Comment se comporter les uns avec les autres ? Cela concerne les personnes LGBT aussi bien que les hétérosexuels. Comment les filles et les femmes, dans une vie désormais mixte, peuvent-elles ne plus avoir à affronter cette sexualité prédatrice masculine ou de conquête qui les harcèle ? C'est le deuxième mot d'ordre de MeToo sur les t-shirts. Les manifestantes remplacent l'ancienne formule « protégez vos filles » par « éduquez vos garçons ». Voilà, la nouvelle civilité implique que les hommes soient éduqués différemment et donc, dans la séduction, ils devraient porter une attention particulière à conquérir le consentement libre de l'autre personne. Voilà. Je ne vais pas vous lire tout, mais MeToo va instruire une nouvelle culture dans laquelle le jeu de la séduction sera l'art du consentement mutuel. Ouais. Pas mal, hein, comme programme. Donc, mademoiselle Manon, tu vas essayer de nous raconter un petit peu ta première expérience du stand que tu as tenu ce week-end au festival Ça sonne à la porte.
En tant que jeune militante d'Amnesty, c'était mon premier stand, la première fois que je pouvais représenter Amnesty International à l'extérieur. Ça a été enrichissant et c'est une expérience que je ne pourrais pas oublier. Comme première fois, j'ai vu énormément de gens, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. J'ai surtout été peut-être quand même marquée par une petite famille. Une maman avec ses deux enfants de 17 et 14 ans et aucun des deux ne connaissait Amnesty International. À 17 ans, je me suis dit c'est quand même impressionnant. Elle a voulu que je parle, que je leur dise en fait un petit peu ce qu'était Amnesty, notre but et surtout qu'est-ce qui m'avait donné envie de devenir militante. Ça a été vraiment très enrichissant en fait d'essayer de pas de convaincre, mais de transmettre un peu mon envie de pouvoir aider les autres, en fait, à travers le monde. Donc, je ne sais pas si je ferai deux des militants, mais en tout cas, je pense qu'ils ont été touchés par le message, ça c'est sûr. Ils m'auront beaucoup remercié à la fin. Ça a été vraiment une belle expérience, ce festival. De pouvoir converser avec des gens sur... Alors forcément, on a vu des pétitions à signer. Tout le monde ne veut pas forcément les signer parce que c'est quelque chose d'assez important quand même. Mais il n'y a rien que de pouvoir représenter Amnesty et puis de pouvoir discuter. Ça montre qu'on est là, qu'on est présent quand même. Et voilà, on ne se fait pas oublier.
Ouais. Le stand est toujours dans le village des associations. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir prendre le temps de parler avec les festivaliers. Il y en a qui se posent, des fois qui se posent longtemps. Bon, il y en a des fois qui nous posent des questions un petit peu, qui peuvent nous coincer un petit peu. Mais voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec les personnes. Et ben, je suis contente de pouvoir avoir eu ton témoignage,
merci
Manon,
beaucoup,
sur cette première expérience. Puis tu vois que c'est pas dur de parler à la radio.
Non, c'est vrai.
Voilà. Donc tu vas être à l'aise tout à l'heure pour la deuxième partie.
Oui, oui.
Voilà. Et puis donc, regarde, nos stress, Didier arrive. Ah,
Bonjour, Didier.
Il va être tout content. Et puis, il va prendre la parole tout à l'heure après la première pause musicale. Voilà. Merci, Damien.
Pas d'échec car pas de risque, pas d'échelon car peur du vide, pas d'argent, pas le physique, donc pas de talent et pas de chiffres, pas menton donc pas de disque, pas de vente donc pas de fric, pas de changement donc pas de fille, pas de royalties, pas d'appétit. Il faudrait que je m'écrase, que je rappe comme tous ces rappeurs, que je tasse, que je laisse passer tous ces messages, pétage, chaudasse, dégage, codasse, t'as rien à faire là. De toute façon, même si t'y crois, t'arriveras pas, car t'es pas assez, t'es pas assez comme ça, car t'es pas assez, t'es pas assez comme ça, car t'es pas assez, t'es pas assez comme ça, car t'es pas assez, t'es pas assez comme ça, car t'es pas assez, t'es pas assez comme ça, car t'es pas assez, t'es pas assez comme ça, car t'es pas assez, t'es pas assez comme ça, car t'es pas assez. Voulez bien refaites, dépêche, t'as de la reconnaissance que si tu fais ton bout de chemin, debout, retiens, personne fera ton lendemain. Personne fera ton lendemain. Va falloir que je devienne comme ces rappeuses ambitieuses. Comment devenir une superstar avec des rimes ennuyeuses? Pas de sujets politiques, plus de sujets féministes, avec des clips engagés où je pourrais écarter mes cuisses. Tout le monde s'en fout, personne n'écoute, donc je n'ai plus rien dans mes textes. Donc je parle de vous, des coups, des sous, je vends des 9 mm. Faut que je parle de drames, des âmes, des strass, des liasses, des rues, des culs, des brutes, des faux, des mères, des autres. Mais je suis pas assez, je suis pas assez comme ça, mais je suis pas assez, je suis pas assez comme ça, mais je suis pas assez, je suis pas assez comme ça, mais je suis pas assez, je suis pas assez comme ça, mais je suis pas assez, je suis pas assez comme ça, mais je suis pas assez, je suis pas assez comme ça, mais je suis pas assez, je suis pas assez comme ça, mais je suis pas assez. Je passe comme ça. Voulez-vous les jeunes et fraîches. Voulez-vous les bien refaites, dépêche. T'as de la reconnaissance que si tu fais ton bout de chemin, debout, retiens, personne fera ton lendemain. Personne fera ton lendemain.
De retour sur l'antenne de Principe Actif. Donc effectivement, c'est Didier. Je suis de retour. J'ai eu un petit retard aujourd'hui pour des raisons impératives et personnelles. Voilà. Donc je reprends la suite de Damien qui a assuré la technique pendant ces premières 20 minutes. Et du coup, comme je n'étais pas là pour préparer l'émission, je ne suis pas non plus au courant du conducteur.
Du coup, le conducteur, il était quelque part par là. Et c'est Manon qui va nous parler de la crise climatique.
Voilà, eh bien la parole est à Manon et le disque qu'on vient d'entendre, effectivement, c'est Amalia. Donc voilà, programmation de Damien, voilà.
Non, c'était au festival Ça sonne à la porte.
C'est ça.
Et Amalia, c'était le morceau Petite Nana, voilà, et c'est une jeune rappeuse.
C'est ça, mais le temps que je prenne mes esprits, donc voilà.
Du coup, j'ai fait un petit texte, en fait, grâce au rappeur d'Amnesty. de cette année sur la crise climatique. Ils ont une phrase d'accroche qui m'a beaucoup touchée. La planète brûle, les droits humains avec. C'est accrocheur et surtout, c'est tellement vrai. La crise climatique est un problème grave et pressant à l'échelle mondiale. Elle a des conséquences, entre autres, pour les droits à la vie, à l'alimentation, à la santé, au logement et à l'eau. Nous serons tous touchés par les risques de cette crise. Ces 10 dernières années, déjà 1,7 milliard d'êtres humains ont dû subir les effets désastreux d'un nombre croissant de catastrophes, comme par exemple les inondations, les sécheresses prolongées, des tempêtes tropicales et de fortes vagues de chaleur. Les pays membres du G20 ont annoncé de nouveaux objectifs à l'horizon 2030 pour réduire leurs émissions carbone. Malheureusement, celles-ci ne sont pas assez ambitieuses et conformes aux droits humains. Fin 2020, seulement 75 pays, responsables d'environ 30% des émissions mondiales, avaient remis leur plan d'action. Celles-ci, déjà peu ambitieuses, n'ont pour la plupart toujours pas été mises en place. Il est clair que les États ont pour la majorité démissionné face à la crise climatique. Cela est principalement dû au fait que pour l'instant, les 10 pays les plus touchés au péril climatique sont le Bangladesh, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, Haïti, le Soudan, la Nigeria, la République démocratique du Congo, le Cambodge, les Philippines et l'Éthiopie.
Que des superpuissances donc.
Et malheureusement, ce ne sont que des pays qui appartiennent aux pays les plus pauvres du monde.
Enfin, qui, en tout cas, certains ont des richesses naturelles,
oui,
mais qui sont spoliés par les
peuple,
superpuissances.
Hein. Voilà, c'est toujours des gens qui ont été abandonnés de leurs droits humains et qui sont complètement délaissés en fait. Alors, bien sûr, c'est les plus gros pays qui ont une émission carbone la plus importante, en fait. Pour l'instant, je pense que sincèrement, ils n'ont aucune importance. Ils donnent aucune importance à la crise climatique parce que, bien sûr, ces pays-là ne sont pas touchés. Donc, tant qu'on n'est pas touché, ce n'est pas notre problème, en fait. Ils préféreront attendre que la crise soit à leur porte pour se donner les moyens de réussir leurs précédents objectifs. Malheureusement, il est vite évident pour chacun d'entre nous qu'à ce moment-là, il sera trop tard. Dans la majorité des cas, les personnes qui sont en première ligne des impacts climatiques continuent d'être exclues du processus de décision concernant la réduction du risque climatique ou de catastrophe. Ces personnes disposent pourtant d'une mine d'expérience, de connaissances et de savoir-faire accumulés. Et elles ont également des droits et des besoins spécifiques. Leur exclusion des processus de prise de décision constitue une atteinte aux droits humains et perpétue une situation faite de dignité bafouée, d'oppression et d'injustice. Elles se traduisent en outre fréquemment par des projets et des politiques publiques en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique qui sont la source d'atteinte aux droits humains et d'inégalités accrues alors qu'ils devraient améliorer l'existence des personnes les plus menacées. J'aimerais finir en soulignant que la lutte pour la justice climatique se heurte également à l'hostilité et à des violences. Les militants écologistes y sont malheureusement souvent confrontés et souvent ils le payent de leur vie. Il y a environ 300 défenseurs des droits humains tués chaque année dans le monde. Beaucoup sont tués en toute impunité. En résumé, actuellement, les pays les plus touchés par la crise climatique sont ceux qui n'ont aucun moyen de la contrer. Ces pays, déjà fortement touchés par un manque d'eau et de nourriture, vont devoir faire face à la disparition du peu de ressources qu'ils ont. En somme, en continuant d'agir comme nous le faisons actuellement, nous continuerons de voir mourir de faim et de soif des milliers d'enfants, de femmes et d'hommes. Sans oublier que tôt ou tard, ces peuples seront forcés d'abandonner leurs terres et de migrer vers des pays moins touchés par la crise. Cela engendrera alors un flux de peuples encore inégalé. Selon le Courrier international, une personne africaine n'aurait droit qu'à 3 verres d'eau par jour. Pouvons-nous continuer de vivre en sachant cela ?
Et donc, il y a une campagne d'Amnesty, un petit dépliant en ce moment, qui est distribué justement sur les festivals pendant l'été. Les droits humains menacés d'extinction, agissons. Donc, il y a des mesures du combat d'Amnesty, puis je vais laisser Manon les reprendre, parce
Merci.
Que je pense que c'est important de les redire. Là.
Urgence numéro 1, les États doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre à zéro à l'horizon 2050, au plus tard. L'urgence numéro 2, les entreprises doivent abandonner rapidement la production et l'utilisation des énergies fossiles et mettre en œuvre une transition juste vers des énergies renouvelables. Urgence numéro 3, les États doivent garantir que l'action pour le climat soit compatible avec le respect des droits des personnes. Urgence numéro 4 et la dernière, les États doivent reconnaître les défenseurs de l'environnement et du climat comme des défenseurs des droits humains et garantir leur protection. Bon, c'est que 4 urgences pour l'instant, mais c'est les plus importantes et surtout les plus pressantes.
Et puis, il y avait un autre petit article dans ce dépliant qui est quand même très, très intéressant. Et je disais à Manon qu'il fallait qu'on vous en parle. C'est sur les déplacés climatiques. Et il y a eu une décision historique de l'ONU. Et donc, je vais laisser Manon aussi reprendre la parole là-dessus. C'est important.
Confrontée à la difficulté d'obtenir de l'eau potable, Loane Tetiota, originaire des îles Kiribati, a dû émigrer en Nouvelle-Zélande où il a demandé le statut de réfugié climatique. Les autorités néo-zélandaises l'ont débouté et expulsé. Il a alors porté l'affaire devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU, affirmant que son droit à la vie avait été violé au titre du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le comité a reconnu que le dérèglement climatique représentait une grave menace pour le droit à la vie et que les États devaient tenir compte de la crise climatique dans l'examen des futures demandes d'asile.
Merci Manon.
Merci.
Et puis ce qu'on pouvait dire aussi, c'était que par rapport à l'Assemblée générale nationale qui va avoir lieu d'Amnesty International qui va avoir lieu à Pau le 24 juin et où Didier sera présent, eh bien le groupe d'Evreux, avec l'aide de Thierry Houle qui fait partie du petit groupe de Bernay qui est rattaché à Évreux, ils ont présenté une résolution sur justement l'urgence climatique, et cette résolution sera portée lors de l'Assemblée Générale.
Au vote à l'Assemblée Générale, voilà. Effectivement, parce qu'on rappelle qu'Amnesty International est une organisation démocratique, donc effectivement, les grandes lignes de conduite sont votées en Assemblée Générale. Et cette résolution, effectivement, a fait la suite d'ailleurs d'une première résolution qu'on avait, nous aussi, le groupe d'Evreux, déposée en 2019 par rapport à l'urgence climatique, pour rappeler à Amnesty qu'il était important de se pencher sur le dossier, chose qui est maintenant une réalité au niveau de l'organisation. Et cette seconde motion, qui est présentée à l'Assemblée générale, a pour but de rappeler aussi qu'Amnesty doit investir le plus de moyens possibles, humains, financiers, enfin, etc., pour alerter les États concernant ce qu'on appelle, un terme qui n'est pas officiellement reconnu, mais ce qu'on appelle effectivement, est-ce que maintenant vous en a parlé, les migrants climatiques, c'est-à-dire les populations qui vont être amenées dans les années qui viennent, et ça a déjà commencé, à se déplacer parce qu'ils ne peuvent plus rester chez eux. On ne peut plus rester chez eux pour cause de sécheresse, pour cause d'inondation, pour cause de etc., etc., de climat absolument invivable au niveau humain. Et donc, on rappelle à Amnesty, dans cette résolution, que les actions doivent effectivement s'amplifier au niveau national et international pour défendre effectivement les droits des personnes qui sont amenées à être des réfugiés climatiques. Voilà. Et pour conclure effectivement sur cette idée-là, c'est que les réfugiés climatiques, en fait, c'est loin d'être un phénomène qui sera purement, entre guillemets, étranger, c'est-à-dire on pense aux pays d'Afrique ou aux pays d'Asie qui sont touchés, mais c'est que l'Europe aussi est touchée par les changements climatiques. Là, en ce moment, on a effectivement à nouveau une période de temps très chaud chez nous en Normandie, anormalement chaud pour l'époque, et que donc, de toute façon, nous-mêmes, nous ne sommes pas à l'abri d'être, dans un futur plus ou moins proche, aussi des demandeurs de refuge climatique. Voilà, ça peut arriver. Donc, c'est pour rappeler tout ça que cette résolution va être présentée au vote pour être une ligne de conduite d'Amnesty International le plus vite possible. Voilà.
Eh bien, merci Manon pour cette première chronique.
Merci beaucoup.
Vous ne pouvez pas la voir, mais elle a la banane. Elle est contente, elle est soulagée. C'était sa première émission et sa première prise de parole.
Merci Clarisse.
Et tout s'est bien passé. Voilà.
Elle s'inquiétait un peu à l'avance.
Non, mais on l'avait dit. Je lui ai envoyé plein d'images, nos stress pendant le week-end. Donc
oui,
voilà.
Tout à fait. Mais ça se passe toujours bien à Principe Actif de toute façon. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, effectivement, ce soir.
Donc, je vais continuer sur l'article qui devait venir après. Donc, moi, j'avais choisi un sujet sur on vous en a déjà parlé, mais je trouve que c'est important, c'est sur les enlèvements des enfants ukrainiens par les Russes. Et dans l'article là de ce mois-ci, du mois de juin 2023, il y a l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Ilya, héros malgré lui. Donc depuis le début de la guerre, les Russes enlèvent des enfants ukrainiens. Et le jeune Ilya, 11 ans, a échappé de justesse à une adoption avant d'être rendu à sa famille sous l'œil des caméras. Donc on le rencontre sur une berge du fleuve Ouj en Ukraine. La main dans celle de sa grand-mère, Ilya marche contre un vent froid. Ses enjambées font une curieuse impression. L'intérieur de sa cuisse gauche n'existe plus. Au mois de mars 2022, un média pro-russe l'avait filmé sur un lit d'hôpital alors qu'il avait été blessé par une bombe. Le reportage affirmait que des soldats et des médecins russes l'avaient sauvé des combats de Mariupol. Le mois suivant, Moscou et Kiev organisaient ensemble une coûteuse opération pour le reconduire dans sa famille en Ukraine. Un succès pour la cause des enfants déplacés par la guerre et en même temps une victoire symbolique pour Moscou qui peut se flatter de soigner des enfants ukrainiens et de les rendre à l'ennemi. Ça, c'est l'histoire officielle. Celle qu'Ilya nous raconte est tout autre. L'enfant se colle à Olena, sa grand-mère retraitée de 63 ans, qui monte les marches qui mènent du fleuve à l'hôtel Ouzorod. Il s'assoit avec nous dans une chambre où ils vont nous donner leur version. Le 24 février 2022, Ilya et sa mère Natalia, fille d'Olena, habitent une petite maison près de Mariupol. En voyant les chars russes approcher, ils fuient vers la cité balnéaire où les missiles les obligent à se réfugier avec 8 inconnus dans le sous-sol d'un HLM. L'air est froid, la nourriture manque. Il y a raconte. Le 15e jour, on décide de repartir à pied à la maison. Ils découvrent leur portail tordu comme une vieille branche. Les tuiles du toit, la table en bois gisent en morceaux dans le jardin bombardé. Dans la cave de la maison abandonnée du voisin, ils mettent la main sur des conserves, de l'eau et des bouteilles de vin. Au 5e jour, vers 17h, Ilya réveille sa mère qui somnole sous une couverture. « Maman, la voisine Viera, elle propose de venir nous réchauffer chez elle. » Il marche, 20 mètres en direction de la maison voisine. Au milieu du chemin, Ilya n'entend plus rien. Un bruit blanc siffle dans ses oreilles. Ses yeux louchent sur sa cuisse. La moitié n'y est plus. Des éclats de fer brûlant ont pénétré dans la jambe jusqu'à l'os. Il se souvient de la douleur. Elle est venue dans la seconde. Sa mère le traîne chez la voisine qui allonge Ilya, bande ses blessures et stoppe l'hémorragie. Natalia a du sang sur le visage. Un éclat s'est fiché dans son front. Ilya se colle à elle et il entend sa respiration se transformer en ronron métallique. La voisine sent le pouls de la femme ralentir. Elle l'emmène doucement. Ilya va terminer sa nuit dans une autre chambre pendant qu'il dort encore. Elle creuse un trou dans le jardin et y enfouit le corps de la maman. À son réveil, Ilya n'a pas le temps de voir la tombe. 5 soldats russes frappent à la porte. Évacuation ! Alors, les Russes au chevet d'Ilya. Les Russes m'ont transporté à l'hôpital de Dovnek, rempli de blessés de guerre. Un médecin a saisi une pince, l'a enfoncée dans ma cuisse et a sorti 5 éclats de métal, sans anesthésie. Ça a fait super mal, raconte Ilya. Après l'opération, une employée des services sociaux de l'hôpital le questionne sur sa situation. « Ma mère est morte, mais j'ai une grand-mère et un frère. » La jeune femme le rassure. « Ne t'inquiète pas, tu iras à Moscou pour être mieux soignée. Tu remarcheras, les médecins russes sont forts. » Ilya se souvient d'une femme gentille et attentionnée. Elle m'a porté de bons fromages ou des bonbons. Quant au personnel de l'hôpital, il l'incite à lire des livres et des BD en russe, une langue qu'il ne veut pas parler. Ilya sent qu'on l'éloigne de l'Ukraine, qu'il connaît, et s'étonne que personne ne lui parle des recherches entreprises pour retrouver sa grand-mère. À 1435 km de là, Olena, justement, ne dort plus. Depuis 8 jours, le téléphone de sa fille sonne dans le vide. Le samedi 26 mars, elle reçoit d'un parent en Russie l'extrait d'un reportage télévisé tourné dans l'hôpital de Dovnek. Il montre un garçon alité et plâtré qui raconte « Il y a eu une explosion, j'ai été blessée à la jambe, maman avait un morceau de ferraille dans la tête, le lendemain matin, elle est morte. » Olena hurle, elle pleure. un jour entier avant de courir demander à la mairie et à la police comment rejoindre Ilia, son petit-fils qu'elle a reconnu à la télé. Tous me répondent « on ne peut rien ». Elle écrit alors une supplique au gouvernement. Elle téléphone à l'hôpital de Dovniex. On lui passe Ilia. « Mon petit chat, comment vas-tu? Ta jambe ?» Ilia rit de bonheur. « Le médecin m'a enlevé de la peau devant pour reboucher derrière. Ça fait mal. Quand viens-tu me chercher ?» Olena parle ensuite à la jeune employée des services sociaux. « Je suis sa grand-mère. Vous devez le prouver avec des documents, répond la femme, et les apporter ici, pour qu'on ne mette pas Ilia dans un orphelinat. » Olena crie. « Mais que dites-vous? Vous n'avez pas le droit, je suis vivante, madame. Je vais reprendre mon petit-fils. » Olena consulte un site internet que lui a transmis l'employé, expliquant les démarches. « Ce site n'a jamais fonctionné, raconte-t-elle. Je le signale à la femme qui me répond qu'elle n'y peut rien. Je comprends alors qu'elle ne fera aucun effort pour m'aider à récupérer Ilia. » Deux jours plus tard, Olena rappelle l'hôpital. Elle tombe sur le médecin-chef, qui s'étonne. Il croyait ce garçon orphelin. Son employé lui avait caché son existence. Elle montre en visio un formulaire qu'elle a posé sur son bureau en attendant qu'il le tamponne. Il y est écrit qu'Ilia est sans famille et que la jeune femme propose de devenir sa tutrice. Je crie au téléphone. « Mais vous êtes fou! Elle n'a pas le droit !» Le nœud de l'histoire est là. Depuis le début de la guerre, sous couvert de les mettre à l'abri des combats, les Russes ont enlevé de force des milliers d'enfants ukrainiens qui séjournaient, certains provisoirement, dans des foyers pour enfants et des orphelinats d'Ukraine. Ils les ont déplacés dans des hôpitaux, des sanatoriums ou des camps de Russie ou des régions occupées. Si le tuteur ou le parent d'un de ces enfants ne vient pas le réclamer parce qu'il est emprisonné ou hospitalisé, parce qu'il n'a pas les moyens de voyager ou simplement parce qu'il ignore où se trouve l'enfant, les Russes peuvent déclarer ce dernier sans protection parentale et le placer dans une famille russe. Et donc ensuite, le président Poutine a signé un décret qui facilite l'adoption d'orphelins étrangers par les Russes et leur acquisition de la nationalité russe. Ainsi, même un jeune Ukrainien possédant une famille et désirant la retrouver, comme Ilia, risque d'être adopté en Russie si sa grand-mère n'était pas arrivée jusqu'à lui et une employée de l'hôpital de Dovniex aurait pu, d'un coup de tampon, devenir sa tutrice. Sont-ils nombreux comme lui? Eh ben, on ne connaît pas exactement les chiffres, nous dit la représentante de Save Ukraine, une ONG de Kiev, qui aide à réunir des familles séparées par la guerre. Les Russes ne donnent jamais la liste des enfants qu'ils déplacent, bien que le droit international les y oblige. Nous avons aidé des parents ukrainiens à récupérer 25 enfants que les Russes avaient déportés dans des sanatoriums de Russie, du Donbass ou de la Crimée annexée. Selon Kiev, si Moscou enlève et russifie ses enfants, c'est pour briser le sentiment national ukrainien, pour voler à l'Ukraine son futur, et si c'était aussi pour se servir de ses enfants comme un butin de guerre. Donc le jeune Ilia a retrouvé sa grand-mère sous les caméras. Après je vous passe un petit peu les retrouvailles parce que bon, je trouve que à un moment donné on lui demande s'il a de l'or ou des diamants sous son plâtre et l'enfant lui dit non c'est toi à et il parle à Vladimir Volinsky. Bon, je trouve que c'est un petit peu fort quand même. Mais bon, c'est quand même important de dénoncer ce que fait la Russie en ce moment. Et c'est pour briser le sentiment national ukrainien et de se servir des enfants comme un butin de guerre. Et le droit pénal international quand même dénonce ces agissements. Les transferts forcés en masse ou individuel de civils hors du territoire occupé dans le territoire de la puissance occupante ou dans celui de tout autre État, occupé ou non, pourrait être qualifié de crime contre l'humanité. Lorsqu'une puissance occupante procède à des transferts ou à des évacuations, les membres d'une même famille ne doivent pas être séparés. De plus, la 4e Convention de Genève de 1949, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, interdit à l'occupant de modifier le statut familial ou personnel, y compris la nationalité des enfants. Enfin, la Convention relative aux droits de l'enfant appelle les États à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, telles qu'ils sont reconnues par la loi, sans ingérence illégale. Voilà. Je trouvais que c'était important de rappeler ce que dit le droit international et que donc ce que la Russie fait en ce moment, bah, c'est une nouvelle fois contre le droit international. Donc, qu'elle soigne les enfants, oui, mais qu'elle les emmène et qu'elle les fasse adopter par des familles russes après, là, c'est contre le droit. Voilà.
Tout à fait. Et puis, je vais m'immiscer, moi, dans le conducteur. C'était peut-être pas prévu, mais ce serait très bref.
Bah, c'est l'heure de la deuxième pause
musicale. Avant la deuxième pause musicale, mais ça va prendre juste une petite minute. C'est parce qu'il y a aussi des bonnes nouvelles. Encore une fois, les émissions d'Amnesty, on essaye de vous donner à chaque fois des bonnes nouvelles. C'est important. Et en plus, c'est une bonne nouvelle qui se passe en France. Et c'est le préfet de Meurthe-et-Moselle qui avait interdit la tenue d'une table ronde en présence de l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri. Dans son arrêté du 15 mars, l'autorité administrative reprochait aux organisateurs l'absence d'anticipation des mesures d'encadrement et de sécurité nécessaires pour un tel événement. Les avocats de Salah Hamouri et trois organisations de défense des droits humains, dont Amnesty International France, ont immédiatement saisi le tribunal administratif de Nancy par la voie du référé liberté. La justice a tranché. Le 16 mars, le tribunal de Nancy a débouté le préfet et suspendu l'interdiction qualifiée d'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression. La réunion publique prévue autour de Salah Hamouri a pu se tenir le soir même. Voilà. Et on vous parle encore une fois d'atteinte grave et manifestement illégale, c'est les termes, à la liberté d'expression, et ça se passe en France. Voilà, donc on a gagné cette fois-ci, mais bon, etc. Deuxième pause musicale et on se retrouve juste après.
Alors c'est un morceau qui s'appelle Indigo du groupe Velvet et qui était passé aussi au festival Ça sonne à la porte.
Le week-end dernier, c'est ça même.
Got me feeling like I know you should, and I could tell what you really could do this time. Make love sublime again, and take me time and time again. 'Cause I know I be yearning for your loving, and every time you come around, I can't stop blushing. I got dreams in my head that thought I'd never be awake, and I see us together. Oh, you got me crushing. Take this as my vow. Wanna give you all my loving, give you what you're needing, and I wanna know just how you're feeling. I feel like I'm rushing, don't wanna be pushing from this love. No, I ain't running. Gonna give you what you want, be your confidant. I'ma dip your tongue, teach me what you want. We gotta get low and jump high. You gotta think big when the limit is the sky. And I wanna try and ask why I can't let you just pass me by. I won't die or defy. You see right through those eyes.
I can't keep myself from you.
You look too good to be true. Now, girl, what am I to do?
Now this year gon' be my cue.
See you now, see you now.
De retour sur l'antenne de Principe Actif. Donc, Claire-Lise vous a annoncé le morceau juste avant. En fait, c'est Velvet Indigo. Voilà. C'est en français, c'est pas en anglais.
Et pour une fois que je parle anglais.
Ça veut dire la même chose. C'est Violet Indigo et le groupe, effectivement, est passé à Ça sonne à la porte le week-end dernier.
J'avais tout bien écouté Damien. J'ai voulu tout bien faire. Et voilà.
Donc, je vais reprendre effectivement la suite de l'émission. Donc, on vous rappelle que c'est Amnesty, on est avec vous jusqu'à 20h, et que c'est notre première émission du mois de juin pour la promotion et la défense des droits humains, comme depuis des années sur l'antenne de Principe Actif. Donc, tout à l'heure, Marion vous a parlé de, dans son petit dossier sur les droits humains et, et le changement climatique, qu'il y avait au minimum, malheureusement, à l'heure actuelle, environ 300 militants écologistes qui étaient tués tous les ans à travers le monde. Et dans la dernière chronique, donc celle qui vient de paraître, on vous rappelle que la chronique, c'est le mensuel d'Amnesty. Abonnez-vous, vous avez le formulaire d'abonnement sur le site amnesty.fr, n'hésitez pas. Donc, ce jeune écolo, tué par la police, on va vous raconter son histoire. Depuis plusieurs mois, Manuel Esteban Pérez Terán, surnommé Fortutiga, ce qui veut dire petite tortue, militait contre l'installation par la police d'Atlanta d'un camp d'entraînement de 35 hectares dans la forêt de South River. Anciennement propriété de la nation amérindienne Muscogee, ce terrain avait par la suite servi de plantation esclavagiste, puis de prison. Avec ses camarades de lutte, Fortutiga, âgé de 26 ans, reprochait à ce projet de privatiser, sans aucune consultation préalable, un espace vert public jouxtant un quartier pauvre au service d'une police qu'il estimait toujours plus armée et toujours plus violente. Le 18 janvier dernier, l'écologiste a été abattu au cours d'une opération d'envergure visant à déloger les militants qui occupaient la forêt. La police de l'État de Géorgie accuse l'activiste d'avoir ouvert le feu contre ces hommes. Cette version est contestée par les organisations Defend the Atlanta Forest and Democracy Now. Une autopsie, commanditée par l'avocat de la famille de Manuel Terán, a déterminé qu'il n'avait pas de résidus de tir sur les mains de Fortutiga. Ce résultat contredit la thèse de la police qui affirme que c'est lui qui a d'abord tiré sur un officier de police, déclenchant ensuite des tirs de riposte. Depuis le mois de décembre, 19 opposants au projet Cap City, donc c'est ce fameux projet, ont été inculpés pour terrorisme. Selon l'avocat Stephen Danziger, connu pour son combat contre l'entreprise Chevron, s'en prendre à des jeunes qui tentent de préserver une forêt en donnant l'assaut comme s'il s'agissait d'une opération militaire est parfaitement excessif. La police a été conditionnée pour croire que ces jeunes étaient des terroristes. Encore une fois, on parle de la police américaine. Que fait-on des terroristes aux États-Unis ? On les tue. Et la prophétie s'est auto-réalisée. Voilà, donc un mort de plus, effectivement, et cette fois ça se passe aux États-Unis. Un jeune Américain qui voulait simplement défendre une forêt et qui était avant propriété de la nation amérindienne.
Voilà. Ça ne te fait pas penser à quelque chose il y a peu de temps en France pour des gens écologistes qui voulaient défendre l'accès à l'eau, tu sais, aux super bassines, par exemple.
Tout à fait.
Alors là, il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu quand même usage excessif de la force.
Tout à fait. Et donc, je vais poursuivre ma petite intervention sur un tout autre sujet, attendez que je retrouve la page.
Et oui, parce que comme t'es arrivé en retard, on t'a tout mis à la fin.
C'est ça, je vois ça. Et ça se passe, alors ça, c'est pas une bonne nouvelle, par contre, et c'est une modification de la législation en Ouganda. Et cette information s'appelle « Homosexuel au péril de sa vie ». Il n'aura fallu qu'une journée aux députés pour approuver une seconde fois la proposition de loi anti-homosexualité. Nous avons une culture à protéger. Ça, c'est les autorités ougandaises qui parlent. Le monde occidental ne viendra pas gouverner l'Ouganda, a déclaré la présidente du Parlement, Anita Among, après un vote qui a frôlé d'une voix l'unanimité. Face aux pressions internationales, le président Yoweri Museveni avait renvoyé le texte aux députés le 26 avril, leur demandant de réviser certaines dispositions. Les parlementaires l'ont donc amendé, notamment pour ne pénaliser que les actes homosexuels et non le fait de s'identifier comme homosexuel, et pour que le devoir de signaler de tels rapports ne s'applique que lorsqu'il concerne un mineur. Petit commentaire personnel, effectivement, on appelle les gens à la délation, hein, ça rappelle d'autres choses. Cependant, l'essentiel du texte, probablement le pire au monde en son genre, selon Volker Türk, haut-commissaire de l'ONU aux droits humains, reste inchangé. L'homosexualité aggravée, entre guillemets, notamment pour les récidivistes et les séropositifs, reste passible de la peine de mort, toujours en Ouganda, et la promotion de l'homosexualité sanctionnée de 20 ans de prison. Cette proposition de loi met en danger la vie des membres de la communauté LGBT, s'alarme Claire Bayarungaba, coordinatrice des programmes sur l'égalité et la non-discrimination de l'organisation ougandaise de défense des droits humains, Chapter 4. Les dommages causés se font déjà ressentir. D'après l'activiste, plus de 110 violations des droits des personnes LGBT ont été recensées cette année, entre février et avril, notamment des violences et des arrestations incluant des examens anaux forcés. Nous pensons que c'est lié à la montée de la rhétorique anti-homosexuelle poussée par des groupes religieux et par les membres du Parlement, explique-t-elle. Dans les cercles de la communauté LGBT ougandaise, l'heure est à l'extrême prudence. Nous sommes encore plus à risque que d'habitude, soupire la responsable d'une safe house, l'une des maisons d'accueil pour les plus défavorisés, souvent chassés par leur famille. Déjà ciblé par deux descentes de police, le refuge craint de nouvelles violences. Depuis la proposition de loi, des mesures de précaution ont été instaurées pour les résidents des refuges, couvre-feu, communication sur chaque déplacement, interdiction d'utiliser des applications de rencontre et de se filmer en direct sur les réseaux sociaux. Nous comprenons que ça limite notre liberté d'expression, mais c'est nécessaire pour nous protéger, conclut-elle. Le président ougandais doit immédiatement apposer son veto à cette loi et prendre des mesures pour protéger les droits de tous les individus, indépendamment de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, exhorte Flaga Mangovia, c'est des mots africains, c'est toujours difficile à prononcer, qui est la directrice régionale adjointe d'Amnesty International. La communauté internationale doit faire pression sur le gouvernement ougandais pour qu'il protège les droits des personnes LGBT dans le pays. Après ce nouveau vote au Parlement, le président Yoweri Museveni a jusqu'au 2 juin pour signer le texte, le renvoyer aux députés pour de nouvelles révisions ou renoncer à sa promulgation. Donc je n'ai pas eu l'info depuis le 2 juin, je ne sais pas où ça en est, mais malheureusement il y a tout à penser qu'il a signé le texte en question.
Alors ce qui est quand même, là le texte est vraiment très grave, mais il faut quand même souligner qu'en Afrique, il y a de nombreux pays où, moi je vois souvent des réfugiés venir dans mes activités au CFEDASTI, que ce soit des gens qui viennent du Nigeria, du Libéria, du Congo aussi, et de plusieurs pays, autres pays d'Afrique, l'homosexualité est condamnée, elle est condamnée par de la prison, encore au Nigeria, au Libéria. Elle peut être condamnée aussi au Congo. Et il y a aussi des pays où, au niveau moral, on peut être répudié de sa famille.
Oui,
par exemple, en Guinée, il y a vraiment des pays où c'est très, très, très fort et très marqué. Et les gens n'ont d'autres solutions que de fuir parce que ils sont exclus de leur famille, ils risquent d'être attaqués, mutilés, et voilà. Donc
et oui, tout à fait. Et donc ce que tu disais par rapport au fait d'être exclu de la famille, ça concerne aussi, enfin c'est un autre sujet, mais c'est tout à fait parallèle, ça concerne aussi dans beaucoup de pays des femmes qui sont victimes de viols et qui sont après exclues de leur famille parce qu'effectivement elles ont été salies, entre guillemets, enfin, etc., etc. Ce qui est une double peine absolument ignoble. Voilà. Et je voulais juste revenir sur cette phrase du début de l'article, je ne sais pas si vous avez bien entendu, quand la présidente du Parlement, donc, qui a défendu ce projet de loi extrêmement, extrêmement restrictif, sur les homosexuels, elle dit « Nous avons une culture à protéger, le monde occidental ne viendra pas gouverner l'Ouganda ». C'est la fameuse idée, effectivement, que les droits des homosexuels sont effectivement un mode de pensée occidental. Alors moi, ça me fait toujours aussi bondir, parce qu'il y a quand même suffisamment d'études dans la psychologie humaine qui ont été faites pour montrer que l'homosexualité, c'est quelque chose que tout le monde porte, de plus ou moins ouvertement, mais que tout le monde porte, et que ça n'a rien à voir ni avec une culture, ni avec un choix personnel. Voilà. Les homosexuels ne sont pas homosexuels parce qu'ils veulent l'être, mais ils le sont de façon psychologique. Voilà. Je crois que c'est quelque chose qui était archi, archi montré par un tas d'études. Et ça ne concerne même pas d'ailleurs que l'individu humain, c'est pareil dans le monde animal, quel qu'il soit. Donc voilà.
Merci Didier. Alors maintenant, on t'avait laissé le temps pour un autre sujet, mais oui, t'as plus le temps.
J'ai
c'est
plus
les
temps.
Informations c'est ça. Locales.
Comme je suis arrivé en retard à l'émission, on m'a squeezé mon temps de parole.
Dis donc.
Pour une fois, c'est moi qui vais me plaindre généralement. C'est les intervenantes qui râlent parce que je leur coupe la parole.
Donc, mais moi aussi, j'avais un autre article et tu vois, je ne
oui,
vais pas le faire.
C'est pas
non,
grave.
C'est l'heure des infos locales.
C'est pas
locales.
Grave. On a une autre émission à la fin du mois. D'ailleurs, on va vous en donner la date. Donc, je ne sais pas, tu les donnes, les infos locales, ou je les donne?
Oui, alors, vas-y. Les infos locales. Eh ben. La prochaine émission, Fréquence Droits Humains.
Oui.
Donc là, c'est une émission spéciale, ouverte au public. Donc elle sera en direct de la salle de AL2E à Netreville. Et ce sera le jeudi 22 juin, de 18h à 19h30.
Et ce sera sur le thème de la Journée mondiale des réfugiés. Donc, il y a des personnes d'associations et des réfugiés qui vont venir pour expliquer un petit peu leur vécu. Et on va pouvoir parler un petit peu de ce que c'est que le statut de réfugié et de cet afflux de migrants en France. Oui. Voilà. La suivante, c'est l'émission de...
C'est humoristique, t'as remarqué.
Oui, ben, j'espère que ça s'entend quand même.
Oui, oui.
La prochaine émission d'Amnesty, donc du mardi, ça sera le mardi 27 juin, si je ne me trompe pas.
C'est le dernier mardi du mois, ça doit être le 27, où j'ai pas de calendrier.
Et donc, ça sera à 19h. Peut-être en présence de Didier à partir de 19h. Et notre dernière info locale, c'est important, c'est notre bourse au livre le 2 juillet, à côté de nos locaux, des locaux qu'on partage avec RESF 27. Et donc c'est à l'espace Saint-Léger, c'est quand vous sortez d'Évreux vers Gravigny, c'est juste avant. C'est au niveau de ce rond-point-là, il y a l'espace Saint-Léger. Sur le parking de l'espace Saint-Léger, nous allons installer notre bourse livre. Donc, la vente de livres, ça sera de 9h30 vers 17h. On a besoin aussi de bénévoles pour nous aider à porter tous ces livres de notre local sous les tentes que la ville nous monte des fois le matin même. Donc, on ne peut pas les mettre la veille au soir. C'est en extérieur. On a besoin de bras, de bénévoles pour porter des centaines de cartons. Bon, on a des chariots, mais il y a 1h30 pour la mise en place le matin, de 7h à 9h30. Et puis, on a besoin de bénévoles aussi le soir pour tout ranger. Donc, pareil, de 17h30 à 18h30, 19h. Ça va plus vite des fois à ranger qu'à installer. Voilà. Eh ben, on espère que vous pourrez venir nombreux à cette bourse aux livres. Donc, on vous invite à venir acheter des livres pour soutenir les droits humains, pour préparer votre été, vos lectures de l'été, et à venir signer nos pétitions.
Tout à fait. Donc, on rappelle ces trois dates. Le 22, fréquence droits humains sur les réfugiés, sur l'antenne de Principe Actif, 18h, 19h30. La prochaine émission, donc mardi 20, tu disais, mardi 27. Mardi 27, 19h à 20h.
Si t'es là. Voilà.
Sur les droits humains, effectivement, sur l'antenne de Principe Actif aussi. On vous rappelle que toutes ces émissions sont effectivement en podcast sur le site de la radio. Vous pouvez les retrouver après, il n'y a pas de souci. Et donc, le 2 juillet, dimanche 2 juillet, la foire aux livres d'Amnesty venait nous soutenir, effectivement. Et ça nous permet aussi de dégager les ressources nécessaires pour faire fonctionner le groupe qui fonctionne comme toutes les structures d'Amnesty sans aucune subvention.
Et pour finir l'émission, un grand merci à Marion pour ses dons. Oui. C'était la première.
Merci beaucoup, Marion. Vraiment, merci pour cette première et belle première expérience.
Ben écoute, si ça t'a plu, c'est bien. Et puis un petit merci à Damien qui est venu dépanner effectivement au début d'émission pour assurer la technique. Voilà. Et donc on laisse.
Et dis donc, j'ai fait tout le conducteur et tout. Hein. On s'est débrouillé sans toi, mon gars.
C'est bien. Ben, je vais arrêter de faire de la radio.
Alors, tu peux dire merci, Claire-Lise. Hein.
Voilà. Je vais arrêter de faire de la radio. Finalement, ça va me reposer. Donc voilà. Et on laisse la place avec grand plaisir au laboratoire qui prend l'antenne tout de suite. Au revoir.
Au revoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux,